Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bertrand Goniot, bonjour.
Bonjour, Quentin.
Il existe deux types d'individus, il y a ceux qui ont extrêmement peur en avion et puis il y a les autres. Vous êtes de quel côté ?
Alors, je fais partie des gens qui adorent prendre l'avion, donc j'ai effectivement pas du tout peur. Et en fait, rationnellement, c'est un moyen de transport très sûr, donc la majorité des gens sont très rassurés en avion.
Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui Bertrand Goniot qui n'a pas peur en avion. Il a beaucoup de chance, d'autant plus qu'il est DG en France d'EasyJet. Voilà, le premier argument pour rassurer quelqu'un qui a peur en avion, c'est de lui dire des chiffres. En gros, proportionnellement parlant, le pourcentage est très faible qu'il arrive quelque chose, c'est ça ?
En fait, c'est un moyen de transport qui est effectivement...
Qui est très fiable.
Qui est très fiable, qui est très très sûr. Donc, entre partir en vacances avec votre voiture et prendre l'avion, ça sera évidemment beaucoup plus sûr de prendre l'avion. Et en plus, ça sera évidemment beaucoup plus agréable.
Merci d'avoir creusé encore davantage cette première réponse. Alors, vous avez une particularité, Bertrand Goniot, c'est que vous avez passé quasiment 12 ans chez Apple. Vous étiez patron en France d'Apple, ce qui n'a rien à voir avec votre job actuel.
Ah, effectivement, ça n'a rien à voir, à part la responsabilité d'animer des équipes et d'avoir un projet. Et puis en fait, il y a quand même deux marques qui sont extrêmement fortes, et donc je trouvais que c'était intéressant de changer un petit peu d'industrie et d'arriver vers un nouveau challenge dans un environnement où c'était juste après le premier confinement.
C'est ça.
Avant le deuxième, bon, je ne savais pas que ce serait encore le deuxième, pour être honnête, mais un timing qui était vraiment très intéressant pour justement réinventer tout l'aérien en France à une période particulièrement compliquée.
Est-ce que cette expérience chez Apple, ça a plu à votre nouvel employeur EasyJet ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont servi chez Apple, qui vous servent encore aujourd'hui ?
Oui, il y a beaucoup de choses. En fait, déjà, il y a la gestion d'équipe assez large. En France, on a 1800 personnes. Il y a le fait d'avoir effectivement un sens de la marque, un sens de marque responsable également, et puis d'être capable de mener un projet dans un environnement de compagnie internationale. Et c'est parfois pas simple de travailler avec des anglo-saxons, et donc c'est un élément important aussi de cette expérience à la fois chez Apple et à la fois chez EasyJet.
Donc vous avez réussi pendant 10 ans, donc c'était OK. En effet, chez EasyJet, vous l'avez dit, vous y êtes entré à une période un petit peu, disons, tumultueuse, disons, pas la période la plus tranquille de l'histoire d'une compagnie d'aviation. Qu'est-ce qui vous a fallu faire d'emblée, vos premières missions, c'était quoi quand vous entrez en piste ?
Alors, en rentrant, comme c'était juste après le premier confinement, mon objectif au départ, c'était effectivement de relancer effectivement l'activité. La réalité, c'est que ça a été non pas de relancer l'activité, mais de maintenir finalement la compagnie en vie.
Ouais.
Et donc, le premier travail, ça a été de travailler avec les organisations syndicales pour arriver à trouver une solution pour maintenir l'ensemble des emplois. Et donc, l'ensemble des emplois a été maintenu. Et ce qui nous a permis, déjà, évidemment, pour les employés d'assurer leur avenir, de les former, parce que c'est très important dans le monde de l'aérien, et puis surtout d'être prêt quand les gens ont pu revoyager, d'avoir du personnel formé et des avions prêts à voler. Donc c'était pas le projet de départ, mais finalement adapté, une très très bonne nouvelle pour tout le monde.
Et en coulisses, donc toutes ces discussions, cette organisation, ça a pris combien de temps ?
Ça a pris quasiment 9 mois, hein, parce qu'il fallait comprendre ce qu'on pouvait faire, comprendre quelle était, si cette pandémie allait durer ou pas, comment on s'adaptait, comment travailler aussi avec les organisations syndicales pour trouver un accord qui soit gagnant-gagnant.
Et vous n'avez jamais travaillé, non, vous avez travaillé dans la culture anglo-saxonne, mais en revanche, les sociétés d'avions, enfin, les compagnies aériennes, vous n'avez jamais travaillé dans cet environnement. Qu'est-ce que, en entrant dans ces circonstances et en découvrant peut-être pas ce secteur, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, d'autres moins en matière de culture d'entreprise et de secteur d'activité ?
Alors en fait, la partie qui est vraiment intéressante, c'est que les gens qui travaillent dans l'aérien sont vraiment passionnés.
Ouais.
Et que les gens, quand, en fait, ils voulaient vraiment revoler. Quoi. De voir ces avions au sol, ça les rendait vraiment tristes. parce qu'on ne va pas dans l'aérien par hasard quand vous êtes pilote ou quand vous êtes steward ou hôtesse. Vous le faites parce que vous aimez ce métier-là. Mm. Et donc les gens, j'ai vu des gens vraiment passionnés. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens, en fait, on leur a interdit de voyager et ça leur a manqué de retrouver les passagers à bord, leur permettre de retrouver leur famille dans les périodes où ils ne pouvaient plus voir leurs proches ou de voir leurs collègues. C'est quelque chose qui a été très fort et très, très intéressant comme projet.
Très douloureux. Aujourd'hui, c'est reparti, ça y est
Donc aujourd'hui, c'est reparti. Hein,
vous avez sauvé EasyJet, vous m'avez dit tout à l'heure.
Personnellement, c'était l'ensemble des équipes qui l'ont fait. Sur la France spécifiquement, effectivement, c'est sur lequel j'ai travaillé. Aujourd'hui, sur cet été, on sera à peu près au niveau d'avant-crise, donc de 2019. Donc c'est encourageant, malgré effectivement les difficultés financières qu'on a pu rencontrer. Donc effectivement, on peut être fiers collectivement du résultat et de le faire en plus, dans un environnement complexe en termes d'augmentation du prix des kérosènes, etc.
On en reparlera tout à l'heure de ce genre de sujet. La spécificité des EasyJet sur ce secteur extrêmement concurrentiel, extrêmement spécial, qui est celui de gens passionnés, vous l'avez dit, c'est quoi la patte EasyJet ?
Donc la patte EasyJet au global, en fait, c'est qu'on est donc une compagnie low cost. Une low cost, ça veut dire quoi ? Ça veut dire très efficace, avec des avions bien remplis, des avions modernes, donc qui sont plus efficaces d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue environnemental. Donc ça, c'est au niveau global, avec des horaires très précis. Ça, c'est le point important. Ensuite, sur la France plus spécifiquement, c'est qu'on est la deuxième compagnie en France, mais ce qui est plus important, c'est qu'on est la première compagnie dans pas mal de régions, à Nice, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, etc. Et donc, on n'est pas que la compagnie pour les Parisiens, on est compagnie pour tous les Français. Et puis, la France est la première destination touristique, donc on permet aussi aux Anglais de venir découvrir la France, on permet à plein de gens d'autres pays de venir découvrir la France, et aux Français d'aller retrouver aussi leur famille au Portugal ou dans d'autres pays, ou d'aller visiter, évidemment, pour partir en vacances.
– Et vous ouvrez, d'ailleurs, de nouvelles lignes, je crois, entre…
– Donc, on ouvre pas mal de nouvelles lignes.
–
Donc, on livre des lignes, par exemple, entre Lyon et La Rochelle ou entre Toulouse et Rhodes. Donc, on a ouvert plus de 20 lignes en 2021, 24 lignes en 2022, et on continue à le faire pour, effectivement, permettre aux gens de découvrir de nouveaux horizons.
– Et ouvrir une nouvelle ligne, ça prend combien de temps, en gros, avec qui on doit en coulisses, avec qui on doit dealer à ce…
– En fait, dans l'aérien, vous avez des saisons qui ne sont pas les saisons habituelles, qui sont la saison hiver, qui est de début novembre à fin mars, et l'autre saison été qui est le reste de l'année. Et donc, en fait, vous êtes obligé d'anticiper quasiment un an à l'avance pour pouvoir le faire. Puis après, effectivement, il faut arriver à comprendre quelle est la demande, travailler avec les aéroports, travailler avec les régulateurs pour être sûr d'avoir des créneaux, etc. Donc, c'est assez complexe, mais c'est important pour s'adapter à la demande.
Vous avez dit tout à l'heure un mot qui m'intéresse, le terme horaire. Chez EasyJet, on est plus à l'heure que dans d'autres compagnies, parce que ça, c'est très concurrentiel. Attention, une compagnie aérienne qui arrive à l'heure, c'est quand même là.
on est effectivement, notamment à Orly ou à Nice, les compagnies les plus ponctuelles. On est en général, effectivement, beaucoup plus ponctuels que nos concurrents. Ceci étant dit, on continue à travailler pour être encore plus à l'heure, parce que c'est ce que souhaitent nos passagers.
La perfection, voilà, la fiabilité à 100% existe-t-elle ? On ne sait pas. comment vous avez parlé d'avions, de nouveaux avions qui sont moins polluants, j'y viens. Comment justement EasyJet fait face à tous ces sujets du style il faut moins prendre l'avion, la pollution, la décarbonation, etc. C'est pareil, comment vous gérez toutes ces problématiques qui sont, je crois, essentielles et qui préoccupent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
Donc ça nous préoccupe évidemment, nous, énormément également. On veut être la figure de proue de cette transition énergétique. On ne s'est pas réveillé hier en disant tiens, on va faire quelque chose. Ça fait plus de 20 ans sur lequel on travaille dessus, avec une réduction de nos émissions de plus de 30% par kilomètre et par passager.
Ouais.
On a été la première compagnie à compenser nos émissions carbone, mais surtout depuis quelques mois, on a annoncé une feuille de route pour arriver vers ce qu'on appelle du net zéro, donc de plus émettre de carbone, avec des éléments chiffrés, contrôlés sur cette feuille de route, avec notamment d'ici 2030, 2035 une baisse de 35% à nouveau nos émissions carbone par kilomètre et par passager. Et ça, ça passe par une modernisation des avions. On a les flottes les plus modernes avec des avions 100% Airbus, avec des avions notamment Neo. Mais ça passe aussi par de l'éco-pilotage, ça passe par des biocarburants et on espère bientôt l'avion à hydrogène.
– L'éco-pilotage, c'est un… n'ayant jamais conduit d'avion et n'ayant… jamais été dans un cockpit, on active un mode éco.
Non,
comme,
pas
dans, comme dans une voiture.
Non, il n'y a pas un mode éco. Alors, je ne suis pas pilote, mais il y a un certain nombre de choses. Déjà au sol, vous pouvez faire finalement rouler votre avion sur un seul moteur plutôt que d'en mettre deux. Donc, c'est des éléments assez simples. Vous pouvez utiliser, quand vous êtes connecté au terminal, finalement, de l'électricité pour mettre de la climatisation, du chauffage dans l'avion. Mais c'est surtout après, vous pouvez travailler sur des montées qui sont plus régulières et des descentes qui permet, qui prend un tout petit peu plus de temps, mais qui, c'est quand même quand vous démarrez au feu rouge, si vous accélérez fort, vous ralentissez fort.
– C'est des petites habitudes, des petits réflexes qui, effectivement, qui changent beaucoup de choses.
– Par contre, c'est dans un environnement très réglementé, donc c'est fait de manière, effectivement, sans compromis sur la sécurité. Et on continue à mettre à jour nos avions avec des nouvelles versions de logiciels pour continuer à optimiser ça. On travaille tous nos avions sur l'équipe de dernière génération d'ailes qui permettent d'économiser, etc. C'est tout un ensemble de choses qui permettent d'être plus efficace à ce niveau-là.
Il nous reste un peu moins de 2 minutes et ça suffira amplement pour parler d'un rapport que vous avez consacré au futur du voyage et notamment une prospection à horizon 2070. Alors que dit exactement ce rapport ?
Alors le rapport, je vous invite à le lire, mais parce qu'il y a énormément de choses. Je pense qu'il y a premièrement, c'est que l'envie de voyager, elle ne va pas diminuer. Hein. Les gens, ils ont.
On le voit déjà.
On le voit déjà. Les gens le reprennent. On voit bien que les un certain nombre de pays comme l'Inde viennent annoncer des commandes très importantes d'avions, etc. Donc cette envie-là, elle ne diminue pas. Par contre, les gens, ils ont envie de le faire avec un parcours client qui soit plus agréable. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des drones qui vous emmènent à l'aéroport.
Ouais.
On peut imaginer effectivement tout un système de solutions biométriques pour vous permettre de passer la douane, de passer la sécurité de manière plus rapide, plus efficace. Et puis après, dans l'avion, on peut imaginer…
Plus de technologie, plus d'écran. Est-ce que c'est le vrai luxe dans l'avion, quand on est une compagnie low cost, c'est le confort, c'est-à-dire des sièges très confortables, ou alors c'est d'avoir des goodies, des widgets technologiques, et je parle à l'ancien patron d'Apple, attention, l'innovation, vous dites que…
Donc en fait, je pense que les gens ils veulent déjà être bien installés. Donc on peut imaginer des sièges avec du biomimétisme, donc vraiment s'adapter à votre morphologie. Ça peut être aussi, effectivement, je pense que le modèle de l'écran intégré est un peu passé, parce que les gens ont soit des écrans, soit il y aura des versions qui sont plus proches d'un hologramme, finalement, qui va vous rendre une expérience qui sera plus en 3D pour vous divertir. Donc c'est plutôt vers ce genre de technologie où finalement vous ne vous rendrez pas compte de la technologie, mais vous la vivrez. Vivrait pleinement.
Il nous reste 55 secondes, c'est très peu. Je vais m'immiscer un peu dans votre vie privée. Si là, on se quitte, vous deviez prendre un avion, vous iriez où ? Passer le week-end ?
Alors, moi, je pense que j'irai. J'adore les Alpes, donc c'est possible que j'aille dans les Alpes passer quelques jours. Mais je pense qu'un élément, c'est que, enfin, en l'occurrence, c'est une des chances de pouvoir prendre l'avion, c'est de pas aller toujours au même endroit. Et donc, ça serait de pouvoir découvrir d'autres endroits suivant les saisons, suivant les amis et suivant les contraintes professionnelles également.
Bertrand Godino, vous êtes patron d'EasyJet en France. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.